France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
C'est l'une des grandes figures de l'algèbre moderne. Pourtant, elle a exercé une grande partie de sa carrière bénévolement, voire dans la clandestinité. Quelle est la postérité des travaux des Minotaures ? Femme et juive dans l'Allemagne du début du XXe siècle, sa carrière de mathématicienne a été une bataille administrative. L'université était interdite aux femmes. Tout au long de sa vie de scientifique, elle va naviguer entre les interdictions jusqu'au nazisme qu'elle fuira. Elle est l'autrice d'œuvres majeures, à commencer par les théorèmes de Noether, qui émergent au moment où la relativité générale se développe et qui deviendront une pierre angulaire de la physique des particules. Einstein l'a considérée comme l'un des plus grands génies du XXe siècle, mais aujourd'hui, elle n'a peut-être pas la reconnaissance qu'elle mérite pleinement. Émilie Noether, la plus célèbre des mathématiciennes inconnues. Sylvie Benzoni-Gavage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicienne, professeure à l'Université de Lyon 1, membre de l'Institut Camille Jordan et l'ancienne directrice de l'Institut Henri Poincaré. Annalisa Panatti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en physique mathématique au Centre de physique théorique CNRS et de l'Université de Toulon et vous êtes l'autrice de la pièce de théâtre Émilie Noether, mathématicienne extraordinaire. Et Roger Mansuy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de mathématiques au lycée Saint-Louis et comme il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est vous qui nous avez donné l'idée de faire cette émission. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure, en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre fil podcast sur l'appli Radio France. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur Blue Sky. Pour vous, nous postons de nombreuses ressources complémentaires. C'est sur notre compte @sciencesCQFD. Alors, quel est l'impact de ces travaux pour les mathématiques et pour la physique? Quelles sont les multiples conséquences des théorèmes de Noether et comment a-t-elle participé au développement de l'algèbre moderne? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence par notre archive du jour et le difficile parcours des femmes de science. Nous sommes en 1952.
On a coutume de penser que si la femme se livre à un certain travail, et notamment à un travail cérébral, elle perd quelque chose de sa féminité. Pensez-vous que cette idée soit vraie lorsqu'il s'agit du travail féminin en laboratoire?
Pensez-vous qu'un homme perde sa virilité? Cette féminité, qui se traduit surtout par un certain besoin de plaire, et qui se manifeste extérieurement par une coquetterie plus ou moins déguisée, ne me semble pas incompatible avec un fonctionnement cérébral rigoureux. Si cette féminité est caractérisée par ce besoin de plaire, on pourrait craindre aussi que les hommes ne perdent ce même besoin. Or, le perdent-ils? La vieille image du savant débraillé et détaché des biens de ce monde paraît bien fausse et démodée. Dans nos laboratoires, nous savons que le fait de bien choisir sa cravate, comme celui de bien choisir sa robe, n'a jamais empêché de bien observer et de bien résoudre.
Voilà un extrait de l'émission Connaissance de l'Homme, diffusée sur la RDF en 1952. Sylvie Benzoni-Gavage, on entend, il reste des a priori sexistes dans cette archive. Être une femme, on imagine toute l'entrave que ça peut être pour une carrière scientifique.
Oui, alors je sais qui est la personne qui répond.
Jeanne Lesquie, en effet, anthropologue, ouais. Et qui ne perd pas son mandant.
Voilà, elle ne perd pas son mandant. Bon, après, c'est étonnant, comme c'est un petit peu aussi... actuel, hein, je veux dire, c'est des questions qui se posent aujourd'hui. Est-ce que les mathématiciennes, qui sont malheureusement trop peu nombreuses dans les laboratoires, se sentent libres d'être comme elles veulent être? Et c'est pas si évident encore aujourd'hui, beaucoup de décennies après.
Annalisa Panatti, votre réaction, vous aussi, à l'écoute de cette archive?
C'est sûrement, je partage l'avis de Sylvie. Et c'est vrai que j'étais un étudiant, surtout la vie de Noether, étonné de combien de fois on fait référence à son apparence physique à l'époque, qui normalement devrait pas avoir un rôle dans la vie d'un scientifique. Donc, c'est encore un sujet dont on parle parfois. Je pense que les temps ont changé, mais en étudiant la vie des minotaures, c'est vraiment très, très étonnant ce qu'on dit d'elle.
Alors c'est notre archive du jour qui date en effet de 1952. Et pour tout vous dire, on a eu beaucoup de difficultés à trouver des archives anciennes sur les minotaures. Est-ce que ça, c'est quelque chose de symptomatique de l'invisibilisation des femmes en sciences, peut-être, Roger Mansuy, particulièrement en mathématiques?
Alors, c'est effectivement exactement l'épiphénomène de l'invisibilisation. C'est-à-dire que non seulement on oublie un peu les carrières scientifiques pendant qu'elles sont en activité, mais on oublie aussi de les célébrer a posteriori, de manière posthume.
Ben on va continuer, on va célébrer de façon posthume cette fameuse Emmeline Otter avec d'abord le personnage, sa biographie. Emmeline Otter est née en 1882 à Erlangen, en Allemagne. Elle est morte en 1935 aux États-Unis. Déjà, est-ce qu'on sait un peu quel est son contexte familial, Annalisa Panatti?
Oui, donc elle est née d'une famille juive. Son père était professeur de mathématiques et elle vit une enfance heureuse, donc une famille qu'elle aime. Elle a pas de problèmes d'argent. Elle ne manifeste pas en tant qu'enfant un désir particulier de faire des mathématiques. Donc elle fait des études standards pour les femmes à l'époque. Donc elle fait ce qu'on appelle les écoles féminines. Et c'est seulement quand elle se demande qu'est-ce que je veux faire dans ma vie que alors elle manifeste les désirs de devenir mathématicien. En parallèle, elle prend un diplôme pour devenir enseignante de langue. Et c'est là donc qu'elle commence à devoir se confronter avec le fait que c'est interdit pour les femmes de fréquenter l'université. Donc pas beaucoup plus sur son enfance, parce qu'il n'y a pas trop de documents. Oui, il n'y a vraiment pas trop qui est écrit sur elle. Et on sait quand même que c'était quelqu'un qui aimait bien vivre, donc aimait bien danser, aimait bien rire. Et une belle personnalité, je dirais.
En effet, elle fait une école municipale de jeunes filles qui a pour objectif de former des maîtresses de maison accomplies. Elle suit parallèlement des cours particuliers de mathématiques. Il faut rappeler le contexte historique et scientifique pour les femmes de cette époque, Sylvie Benzoni-Gavage.
Oui, elles ont pas le droit d'aller à l'université. Enfin, il y a quelques dates clés qui lui permettent, après ses cours particuliers, de suivre des cours à l'université d'Erlangen, si je ne me dis pas de bêtises, avant que ça soit autorisé à Göttingen. Et même quand il y a des évolutions, il y a un fameux décret en 1908 qui autorise les femmes à suivre des cours, mais surtout pas à être enseignantes. Voilà, donc c'est...
Roger Mansuy.
Alors la situation allemande, elle est amusante parce qu'il y a des Länder différents avec des lois qui évoluent à des vitesses différentes. Emmeline Otter, elle est Erlangen, c'est une situation qui est un peu privilégiée par rapport à Göttingen. Et à Göttingen, on a beaucoup de femmes qui viennent étudier les mathématiques, mais souvent des étrangères qui viennent grâce à l'aide de bourses. Et c'est un petit déclencheur qui va aider à ce que des femmes puissent accéder à l'université en tant qu'étudiantes. Et un épisode un peu drôle qui est contemporain d'Emmeline Otter pour comprendre la difficulté. Il y a deux étudiantes qui préparent leur thèse en même temps qu'Emmeline Otter met à Göttingen, Clara Löwenstein et Margarete Kahn. Et quand elles vont vouloir soutenir leur thèse, on va leur reprocher, on va essayer de leur interdire la soutenance parce qu'elles ont des CV trop proches. Et on a l'impression qu'on se moque de l'institution, mais elles ont des CV proches parce qu'elles ont été aux seuls endroits en Allemagne où les femmes étaient acceptées dans des cours.
C'est en 1907 qu'elle va soutenir sa thèse avec les félicitations du jury. Elle va devenir la seconde mathématicienne allemande à passer son doctorat dans une université allemande. Faut dire aussi que dans cette biographie, en 1915, on a la Première Guerre mondiale, les salles de cours de l'université se vident, les tranchées se remplissent. Et là, on a deux personnages qui sont très importants dans cette histoire, c'est Hilbert et Klein, qui sont à la recherche de nouveaux talents. Et ça, ce sont deux mathématiciens qui vont véritablement la défendre, Sylvie Benzoni-Gavage.
Oui, alors c'est effectivement apparemment Hilbert notamment qui défend le fait qu'elle puisse passer le diplôme après le doctorat, qui est l'habilitation. Ça existe aussi en France aujourd'hui. C'est ce qui permet en théorie de devenir professeur. Et ça lui est refusé en 1915, voilà, en pleine guerre. Et il faudra attendre 1919, la fin de la guerre, l'évolution de la législation, pour qu'elle puisse enfin passer cette habilitation qu'elle était prête à passer en 1915 avec le soutien de Hilberte.
Oui, il va même y avoir des subterfuges dans cette histoire, Anna-Lisa Panetti.
Oui, en fait, je voudrais préciser donc, que donc, passer l'habilitation pour les femmes à l'époque, c'était interdit. Et par contre, Hilberte et Klein, qui sont des personnes était très importante, mathématicien très connu, cherche à convaincre l'université et faire demande à le ministère pour faire une exception sur, pour un militaire. Donc les débats dans ces moments-là, ce n'est jamais est-ce qu'il faut permettre aux femmes de à pouvoir passer l'habilitation, mais est-ce qu'on doit faire une exception pour elles. Et il y en a qui disent non, on ne veut pas créer un précédent, même si elle a le... après, la question, c'était différente.
Je pensais à Hilberte qui disait d'ailleurs, dans son opposition, qui proclamait nous sommes une université, mais pas un établissement de bains.
Mais vous disiez pour les subterfuges, parce qu'en fait, l'histoire, donc, il a, comme vous dites, cette réunion de la faculté, dans laquelle il a cette opposition qui, aujourd'hui, on trouve complètement injustifiée. C'est vraiment difficile de se mettre dans l'esprit de l'époque. Hilberte, il a un moment de rage, donc on ne sait pas trop ce qu'il a dit, mais on sait qu'après, il a dû s'excuser pour des tons un peu trop forts. Et apparemment, il a dit on n'est pas dans un établissement balnéaire. Et après, puisqu'il comprend qu'ils n'arriveront pas, Hilberte va parler avec le ministère, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Et finalement, ils disent, bon, on va dire que c'est Hilberte qui fait le cours avec l'assistance de Madame Netter. Et finalement, c'est Netter qui enseigne. Jusqu'à le changement politique qui fait en sorte que les lois changent. Donc, elle a tous les droits d'obtenir cette habilitation qu'elle obtient, bien évidemment, avec félicitations de tout le monde.
Pendant 4 ans, elle donne cours sous le nom de Hilberte. Et puis, 1919, après 12 ans d'enseignement bénévole, elle obtient enfin le titre de maître de conférence en 1919. Alors, en tant que prof, Sylvie Benzoni-Gavage, elle fait pas l'unanimité non plus parmi ses étudiants.
Oui, apparemment, ces cours étaient assez clivants. En gros, il y avait les étudiants, le public qui venait, qui était conquis, qui se passionnait pour ce qu'elle racontait, qui était assez informel. André Weil, un des mathématiciens fondateurs de Bourbaki, disait que ces cours étaient désordonnés. Voilà. Et par contre, ceux qui accrochaient, au contraire, j'ai dit qu'il y en avait qui étaient passionnés, et puis les autres décrochaient, quoi. Et fuyaient ces cours.
Roger Mansuy.
Je ne vais pas critiquer les cours qui peuvent être désordonnés. J'ai plutôt l'impression, quand on lit les témoignages de l'époque, que les gens lui reprochent d'être trop spontanée, de ne pas avoir un carcan dans lequel elle va se mettre dans un cours. Quand elle avait une idée en venant en cours, elle changeait un peu son cours, son organisation, et elle fournissait davantage de mathématiques qu'elle ne fournissait vraiment de cours habituellement.
Oui, elle faisait pas des cours pour l'équivalent de la première année, parce que n'étant pas vraiment employée par l'université, là, elle faisait que les cours avancés. Et c'est vrai qu'elle cherchait d'expliquer, d'amener ces nouvelles méthodes que la communauté, dont elle était un leader dans ça, mais dans toute une communauté qui cherche ces nouvelles méthodes de prouver les choses d'une façon nouvelle. J'ai beaucoup aimé l'épisode dans lequel elle cherche à prouver un théorème avec cette nouvelle façon. Elle se rend compte qu'il y a une erreur. Elle a un coup de rage, jette la grille par terre, commence à faire une scène, et puis elle dit, bon, je vais vous expliquer l'ancienne méthode, et elle finit son cours. Je pense pas qu'on pourrait faire de cours comme ça aujourd'hui.
Anna-Lisa Panetti, en tout cas, tout ça, ça décrit quand même déjà un personnage, un caractère que vous avez aussi utilisé pour écrire votre spectacle. À partir de quoi, justement, vous avez réussi comme ça à dessiner ce visage de cette mathématicienne?
Mon point de départ, c'était un passage de sa personnalité qui a été décrit par son collègue Pavel Alexandrov, qui l'a décrivé, donc une phrase de Pavel Alexandrov qui disait que Mineter avait toujours un sourire, qui riait de toutes les injustices quand on l'accusait, j'imagine qu'on lui faisait tout le temps des remarques désagréables, et elle riait dessous, donc j'imagine cette rire presque pacificateur, on dirait. Et elle, par contre, elle défendait beaucoup ses étudiants. Elle était beaucoup plus assertive en descendant les autres. Donc, je faisais partie de là, imaginer ce personnage solaire, sympathique, malgré la situation difficile dans laquelle elle a dû vivre toute sa vie.
Sylvie Benzoni-Gavage.
Oui, alors il y a cette pièce, mais il y a aussi une pièce, je pourrais signaler, qui est autrichienne, hein, qui est sur Émile Noether, avec un titre un petit peu provocateur en anglais, qui dit voilà, plonger dans les maths avec Émile Noether. Et puis il y a cette exposition qui avait été conçue à l'Institut Henri Poincaré. Donc il y avait c'était une mathématicienne extraordinaire, et c'est un adjectif qui est même dans le titre d'un livre en anglais de David Rowe, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire d'Émile Noether. Et donc, on avait sollicité David Rowe, aussi Yvette Kaussmann-Schwarzbach, qui a contribué à démêler tous les fils autour de ces théorèmes dont on parlera plus tard. Et puis, Clotilde Fermagnan-Kammerer et Constanza Rojas-Molina. Donc, toutes ces personnes ont contribué à cette exposition. Et il y a même un livret aussi qui est disponible sur le site de la Société Mathématique de France, qui raconte un petit peu quelques aspects de la vie et des travaux d'Émile Noether.
Alors ces travaux d'Émile Noether, ce théorème qui n'en est pas un mais deux, qui est fondamental en physique aujourd'hui, pourquoi l'est-il ? Reste à l'écoute, on y vient.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture, nous parlons d'un monument des mathématiques, Émile Noether, avec Sylvie Benzoni-Gavage, Annalisa Panatti et Roger Mansuy. On vient de voir que, assez vite, elle commence à avoir de la reconnaissance pour ses travaux, malgré le fait qu'elle ne pouvait pas légalement étudier ou être enseignante à l'université, car c'était interdit pour les femmes. David Rowe, mathématicien et historien américain, écrit « Dans ses jeunes années, elle avait clairement un don pour le calcul, car la tâche que Paul Gordon lui avait confiée, Paul Gordon, c'est son directeur de thèse, la tâche que Paul Gordon lui a confiée était vraiment ardue. Développer la théorie complète des invariants pour les formes ternaires du quatrième degré. » Sylvie Benzoni-Gavage.
Ouh, alors on commence à rentrer dans la technique. Donc effectivement, c'est ce travail de thèse qu'elle a ensuite elle-même dénigré. C'est quand même lui qui lui a ensuite valu d'être sollicité par Hilbert et Klein pour travailler sur une question issue de la relativité. Mais si on revient à la thèse, c'était effectivement des questions d'invariants. Alors peut-être qu'on peut essayer d'expliquer un petit peu de quoi il retournait. Donc il s'agissait de travailler déjà sur des polynômes. Alors polynôme, peut-être vous avez entendu parler de x carré plus y carré, c'est des expressions où il y a des x, des y, éventuellement d'autres lettres, puis des puissances. Et dans ces expressions, on peut mettre des lettres en plus qui sont plutôt les coefficients. Donc ça peut peut-être rappeler des souvenirs à ceux qui ont fait ça à l'école. Donc vous prenez ax carré plus bxy plus cy carré, et vous vous demandez s'il y a par certaines transformations sur les xy, quelque chose qui est préservé. Donc un invariant, c'est un peu ça. Et donc il y a cette formule qui peut rappeler des souvenirs, b carré moins 4ac, qui est un des invariants comme ça, dans un cas vraiment simple, entre guillemets, c'est-à-dire il y a deux variables, x et y, et c'est de degré 2. Et elle, ce qu'elle a regardé, c'est, si je ne dis pas de bêtises, donc trois variables et degré 4. C'était beaucoup plus compliqué, et de mémoire, elle a réussi à calculer à la main, bien sûr. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur qui pouvait le faire à sa place. 300 invariants, quelque chose comme ça.
300 invariants à la main, voilà.
Et elle a qualifié ça d'une jungle ou d'un maquis de formules.
Ouais. Voilà. Annalisa Panatti.
Oui, je pense. Elle a déclaré qu'elle n'était pas très fière de son travail initial. Mais moi, dans ma pièce, je l'ai un peu... je fais le parallèle avec l'entraînement qu'on doit faire pour un sport. Donc, c'est quelque chose que l'a entraîné et donc l'a rendu experte dans cette théorie de l'invariance. Après, elle a pu apprendre des idées nouvelles grâce à Erno Fischer, qui est arrivé pour remplacer Paul Gordon. Donc, s'est rapproché des nouvelles théories d'Hilbert. Mais ça, certainement, c'était un moment important dans sa vie parce qu'elle a entraîné sa capacité à faire des calculs grave, je voudrais dire.
Roger Mansuy.
J'ai toujours été curieux par cette appellation de broussaille ou de maquis de formule. Elle utilise même un mot allemand qui veut dire plus ou moins fumier à un moment quand elle parle parle de sa propre thèse, j'ai voulu aller la regarder. Et donc, on a des pages et des pages. Il y a 331, je crois, invariants qui sont calculés, qui sont des pages affreuses à lire et même à comprendre aujourd'hui. Et en même temps, c'est un tour de force exceptionnel. Si c'est dans la tradition de ce que faisait son directeur de thèse avant, on est passé quand même à un échelon supérieur en termes de réussite technique.
Et puis, Loukel, on est sur ses tout premiers travaux qui, comme vous dites, qu'elle va plutôt dénigrer par la suite. Et puis, il y a ce moment important, hein, Einstein et Noether, où, en fait, c'est au printemps 1915, Emmy Noether rentre en connaissance des travaux d'Einstein par le biais de Hilbert et Fixquin qui sèchent, ils sont face à une énigme, et finalement, ils donnent tout ça, paf, dans les mains d'Emmy Noether, Sylvie Benzoni-Gavage.
Oui, alors c'est effectivement parce que elle avait fait ce travail sur les invariants. Là, c'était une question aussi d'un problème d'invariant qui était vraiment à rechercher dans une théorie toute neuve, la relativité générale. Elle fait suite à la relativité restreinte qui datait de 1905, mais 1915, c'est vraiment l'année d'élaboration de la relativité générale où Einstein a des questions à propos de l'énergie liée à la gravitation et la question est posée. Alors, il y a une conjecture de Hilbert, apparemment, sur cette question-là. Et elle vient à Göttingen pour répondre à cette question. Et en fait, elle fera beaucoup plus.
Annalisa Panetti.
Oui, donc en fait, Einstein, en 1915, il fait aujourd'hui, on dirait un mini-cours à l'Université de Göttingen. Donc, il est en contact avec Hilbert. Hilbert travaille justement, comme a dit Sylvie, sur cette question des invariants en relativité générale. Il faut comprendre que la relativité générale vient juste d'être inventée. Donc, lui, il a l'idée physique de base, mais il a tout un travail mathématique à comprendre, justement, les connaissances sur la théorie des invariants. Qui avait été développé indépendamment, rentre dans ce travail. Et donc, Hilbert pose un contact avec Einstein. À un moment donné, il pose, il laisse que ce soit Noether à s'occuper des dernières questions. Et c'est elle qui sort le théorème de 1918, qui aujourd'hui on appelle le théorème de Noether, dans lequel il fait vraiment les liens entre le fait qu'il y a des quantités conservées et l'invariance par rapport à des groupes de transformation, qui c'est celle dont parlait déjà Sylvie. Donc, est-ce que je peux, par quel type de transformation certains systèmes invariants, donc c'est elle qui fait vraiment ces liens. Donc, c'est un article qui n'est pas vraiment... apprécié. Enfin, il est apprécié par Einstein, mais elle ne lui vaut pas la gloire pendant sa vie. C'est après qu'avec le développement, disons, de théorie physique, que cette façon de penser, de lier la quantité invariante à les symétries du système, devient de plus en plus importante dans la physique. Et donc, maintenant, on considère cette théorème extrêmement importante dans la physique mathématique.
En tout cas, Einstein, qui découvre cet article de Emmy Noether, écrit à Hilbert, il écrit « Je suis impressionné que l'on puisse considérer ces choses d'un point de vue si général. Cela ne ferait pas de mal aux troupes de retour à Göttingen après le champ de bataille de suivre les cours de Mademoiselle Noether. Elle semble très bien connaître son affaire, Roger Mansuy.
Ah oui.
Alors, ces mots très flatteurs d'Einstein sont fantastiques. On aurait peut-être apprécié qu'il la cite un peu plus par la suite dans ses travaux de recherche, parce qu'une partie de son invisibilisation et du fait que ses théorèmes n'ont pas eu cette notoriété tout de suite, c'est que peu de gens l'ont réellement cité à ce moment-là. On la trouve un petit peu dans, je crois, le livre de Courant Hilbert à ce moment-là, mais Einstein va pas être très généreux dans ses attributions. D'autres vont utiliser ses résultats ou les minimiser. On va attribuer à Hilbert qui avait émis une conjecture, effectivement, qui avait un premier cas particulier. Mmh. On va un peu oublier son rôle pendant quelques temps, et Einstein n'est pas étranger à ça.
Mais Einstein, d'ailleurs, avait un peu l'habitude de ne pas citer tout le monde. Il y a en France un grand débat entre Einstein et Poincaré. On parlait en notre mission.
Pour revenir à notre Emmy Noether, les deux théorèmes sont donc liés. Ils ont tous les deux contribué à la résolution de la question de la conservation de l'énergie dans la théorie de la relativité générale. Sylvie Benzoni-Gavage, quelle est la différence finalement entre le premier et le second théorème?
Oula, voilà, on va rentrer aussi dans des choses assez pointues.
Je me tourne vers vous à chaque fois pour les questions.
Alors, déjà, c'est vrai que l'histoire de cet article est quand même très, très étonnante. Je vais essayer de répondre ensuite à la question sur les deux théorèmes, mais Très vite, il y a quand même une généralisation qui est faite par Eric Besselhagen, qui était un mathématicien allemand. Et puis, mais c'est un peu le seul, je pense, qui s'intéresse à ça. L'article, apparemment, est oublié. Elle-même l'a un peu oublié. Elle ne sait même plus quelle année exactement il était publié. Et elle est passée à autre chose ensuite. Elle a vraiment fait de l'algèbre pure. Mais ce qui est très intéressant, c'est que cet article, c'est le premier qui montre ce que va être ce que Van der Waarden, le mathématicien néerlandais cette fois, qualifié de devise des minotaires, une façon de faire très originale où elle abandonne les objets particuliers, donc par exemple les choses qu'elle avait fait pendant sa thèse, pour définir des concepts abstraits et universels. Et c'est vraiment ce qu'elle a fait dans cet article de 1918 où il y avait des travaux précurseurs. Donc ces questions d'invariance et de lois de conservation étaient connues en mécanique classique, par exemple, et puis même en mécanique relativiste, il y avait des choses. Et elle s'est élevée au-dessus de ça pour vraiment prendre un point de vue très, très général. Alors, voilà, mais très général, quand même dans un cadre qui est ce qu'on appelle les problèmes variationnels. Alors, c'est le principe variationnel, c'est devenu quelque chose de très important en physique.
Mais vous avez un bon exemple pour illustrer ce principe.
Voilà, alors un exemple, un des problèmes variationnels qu'on cite très facilement, c'est le plus court chemin entre deux points. Donc, intuitivement, on se dit que c'est la ligne droite. Mais si vous avez déjà voyagé en avion, que vous avez vu la représentation sur le globe terrestre, vous n'avez pas trop l'impression que c'est une ligne droite, et parce que en fait, la Terre n'est pas tout à fait plate. Et voilà. Donc, c'est un des premiers problèmes variationnels. Mais ce qu'elle regarde, c'est des problèmes beaucoup plus abstraits et généraux. Et à cette époque-là, c'est pas clair que la physique soit régie par des principes variationnels. Si j'ai bien compris, le seul à y croire vraiment à ce moment-là, c'est Hilbert. Et Einstein est sceptique, etc. Donc elle prend ce cadre, elle décide de prendre ce cadre variationnel pour essayer de vraiment formaliser le lien qu'il y a entre les propriétés d'invariance et les lois de conservation. Ça, c'est le truc général. Et maintenant, pourquoi il y a deux théorèmes ? Alors, les propriétés d'invariance, on dit aussi des symétries, mais il faut voir que ce n'est pas les symétries qu'on a l'habitude d'apprendre à l'école, où on regarde une symétrie miroir, par exemple. C'est des choses plus générales qui sont un petit peu comme si on fait un tour, si on regarde un tourniquet, on fait tourner, on regarde des rotations, par exemple. Et il y a un paramètre qui n'est pas juste un miroir, 0 ou 1. Et il y a des groupes de transformation, Annalisa a cité le mot, qui sont plus ou moins compliqués. Donc certains qui sont disons finis, et c'est son premier théorème qui concerne ces groupes-là. Et le deuxième concerne des groupes plus compliqué encore, infini, et non seulement infini, mais de dimension infinie. Et c'est ça qui est important en relativité générale, c'est le deuxième.
C'est que ces travaux vont éclairer, comme vous l'avez dit, des résultats connus en mécanique classique, et très rapidement, ça a aussi été utile en mécanique quantique. Roger Mansuy, quelles ont été les applications, l'importance de ces théorèmes pour les physiciens ?
Alors, en mécanique quantique, je vais avoir du mal à répondre directement. En fait, ce qu'il faut comprendre dans l'énoncé du théorème, c'est qu'on part de ces symétries, de ces choses qui sont invariantes dans la façon dont est gouverné le système, et on en déduit des choses qui sont conservées. Quand on commence la physique, on a de la conservation de l'énergie, de la conservation du moment cinétique, on a des choses qui sont conservées. Et connaître ces choses qui sont conservées, ça permet de faire des calculs, ça permet de simplifier le système pour pouvoir trouver des solutions. Et donc, plus on connaît les symétries du système au départ, plus on a de quantités invariantes, plus on a d'outils pour pouvoir résoudre des choses qu'on ne sait pas résoudre a priori.
Annalisa Panetti.
Et ça, c'est le point de vue qu'après, je disais tout à l'heure, donc c'est un point de vue qu'après, avec le développement de la physique, donc aussi la théorie de Young-Mills, on cherche justement de regarder par quel type de transformation cette théorie invariante est. Et selon la théorie qu'on regarde, donc on cherche toujours des groupes de symétrie et des invariants pour simplifier, pour pouvoir résoudre les équations. Mais maintenant, c'est devenu une façon de penser. C'est ça qu'on pourrait dire, dans toutes les branches de la physique. Oui.
C'est un théorème qui, sur le moment, n'a pas trop de succès. À l'époque, on ne comprenait pas à quel point c'était quelque chose de fondamental, mais il a été réévalué ensuite dans les années 50-60. Quelle est sa postérité et comment, à partir des années 20, va-t-elle entrer dans la deuxième partie de sa carrière, l'algèbre moderne ? Restez avec nous. Mathématiques modernes de TV Night en direct sur France Culture, car nous parlons d'une immense mathématicienne, Émine Auteur. On en parle en compagnie de nos trois invités du jour, Sylvie Benzoni-Gavage, mathématicienne, professeure à l'Université de Lyon 1 et membre de l'Institut Camille Jordan, Annalisa Panatti, maître de conférence en physique mathématique du Centre de physique théorique du CNRS et de l'Université de Toulon, l'autrice de la pièce de théâtre, Émine Auteur, mathématicienne extraordinaire, et Roger Mansuit, professeur de mathématiques au lycée Saint-Louis. On vient de voir que les deux théorèmes de Noether sont liés et ont tous contribué à la résolution de la question de la conservation de l'énergie dans la théorie de la relativité générale. Sylvie Benzoni-Gavage, quelle est plutôt la suite, l'histoire et la postérité de ces théorèmes dans l'histoire des sciences ?
Alors, si j'ai bien compris, pendant, disons, 3 décennies, il a été ignoré, et y compris par elle-même. Et ensuite, il y a un physicien théoricien du nom de Edward Hill qui a ressorti, le théorème le premier, et puis dans une version simplifiée. Et cet article a eu un fort impact dans la communauté de physique théorique, et tout le monde s'est emparé de ça en disant « c'est super », et s'est mis à redécouvrir, en pensant découvrir, des propriétés de relations, enfin des relations entre les symétries et les lois de conservation dans différents contextes, alors que c'était déjà tout dans l'article de Noether.
Et puis, en effet, cet article, ce théorème qui est repris, utilisé par les scientifiques de Los Alamos dans les années 50, enfin, il y a aussi cette...
Alors ça, c'est peut-être un raccourci, en fait. Oui. C'était en préparant l'émission, j'ai mentionné Los Alamos parce qu'il y a eu ces expériences de physique atomique et surtout de premiers calculs avec les premiers ordinateurs de physique atomique qui ont donné des solutions inattendues et qui ont redonné, une importance à une équation qui avait été, elle aussi, oubliée depuis le 19e siècle, qui s'appelle l'équation de Korteweg avec de Vries, qui admet des solutions particulières qu'on appelle des solitons. Et en fait, c'est notamment un mathématicien qui s'appelle Peter Olver qui a contribué à expliquer pourquoi le théorème de Noether, même dans sa première version, expliquait la théorie des solitons, où il y a énormément, et tellement énormément qu'en fait il y a une infinité de lois de conservation pour l'équation de Korteweg avec de Vries. Et ça vient du théorème de Noether, dans une version qu'elle n'avait pas elle-même faite, mais en tout cas avec les symétries dites généralisées qu'elle avait déjà considérées.
En tout cas, une des applications de ce théorème, c'est aussi quelque chose que l'on voit donc en physique des particules, et notamment pour le modèle standard de la physique des particules, ce qui va permettre de comprendre l'interaction forte, l'interaction faible, qui va entraîner le développement de la chromodynamique quantique. Donc on voit bien toute l'importance théorique et en termes d'application. Est-ce que, quand on regarde justement toutes les applications fondamentales, pratiques des travaux mathématiques de Émine Auteur, Annalisa Panatti, est-ce qu'on peut dire que finalement, elle est mathématicienne ou elle est physicienne ?
Non, elle est mathématicienne. Elle a toujours été mathématicienne. Son théorème, comme disait tout à l'heure, contient tout, mais aussi parce que c'est un théorème très très abstrait. Je pense un peu illisible maintenant. Maintenant, on l'enseigne de façon assez, comment dire, plus concrète. Et je dirais plus simple, en version simplifiée. Je pense qu'elle était vraiment intéressée à la structure algébrique de ces problèmes et qui après a été comprise dans l'histoire de la physique. Mais elle était mathématicienne.
C'est vraiment Peter Olver qui a vraiment expliqué toute la profondeur, décortiqué tout ce que signifiaient ces deux théorèmes.
Roger Mansuit.
Alors, clairement, je répondrai aussi mathématicienne. En revanche, les frontières, elles ne sont pas si nettes de manière générale. On dit mathématicienne parce qu'elle a ce point de vue généralisant, ce point de vue d'abstraction où on part d'une relation concrète et on ne la comprend que quand on a enlevé tout ce qui était particulier. Mais est-ce que vraiment la distinction entre physique et mathématiques est si claire que ça, entre des physiciens théoriciens ou des mathématiciens appliqués ? Est-ce qu'on voit une vraie différence ? C'est plus un aspect un peu philosophique et la façon dont on approche.
C'est à partir de 1920 qu'elle développe sa deuxième carrière, sa deuxième partie carrière. Elle développe la théorie des anneaux et de l'algèbre moderne.
Je crois qu'ensuite, la plus importante mathématicienne, c'est au XXe siècle, Émine Auteur, qui est vraiment... la mère de l'algèbre moderne, on peut dire, puisque elle a travaillé avec Hilbert, un des plus grands mathématiciens du début du siècle, qui a défini un programme pratiquement pour tout le XXe siècle. Et Émile Noether, à Göttingen, a eu une œuvre importante. Elle était elle-même fille de mathématicien, bon, ça aide. Elle a pourtant eu, et c'était plus d'un siècle après Sophie Germain, beaucoup de difficultés. Elle n'a jamais pu être professeure d'université avec un salaire, même quand elle a donné des cours. C'était des cours qu'elle donnait, on peut dire, bénévolement, sans avoir un véritable statut, un véritable poste. Et pourtant, elle est considérée comme vraiment une des grandes figures des mathématiques axiomatiques et modernes d'aujourd'hui.
Voilà, un extrait des Nuits magnétiques sur France Culture en 1989 et la voix d'Ami Dahan, historienne des mathématiques. Sylvie Benzoni-Gavage, on l'entend dire mère de l'algèbre moderne. Est-ce que l'expression est galvaudée ?
Alors apparemment, elle a été employée par les jeunes qui l'ont côtoyée, parce qu'elle a eu une influence et un impact considérable auprès des jeunes qui allaient à Göttingen avec des bourses et autres pour écouter ses cours. Et même quand ils refusaient, comme André Weil, apparemment, d'écouter ses cours, ils discutaient avec les autres et ils en retiraient quelque chose. Et il lui-même dit que c'est comme ça qu'il s'est initié à ce qu'on commençait à appeler l'algèbre moderne.
C'est qu'en fait, on est à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on voit un énorme changement dans la méthodologie des mathématiques. L'algèbre abstraite a émergé autour du début du 20e siècle, Roger Mansuy, c'est ça ?
Alors oui, enfin, la partie dont parle Émile Noether, c'est celle dont on dit anneau idéal, c'est des mots qu'on utilise en mathématiques, elle naît de la théorie des nombres de Dedekind. Elle dira même elle-même à un moment, ce qui contribue à minimiser son propre travail, que tout est dans Dedekind, ou presque. Elle arrive à un moment où on a traité suffisamment d'exemples, suffisamment de cas particuliers pour pouvoir comprendre un peu mieux. Et un peu comme on le disait tout à l'heure, son idée d'abstraire les choses, de comprendre en profondeur, c'est-à-dire c'est plus des nombres, c'est plus des polynômes, ça va être des relations qui sont à l'intérieur et qui entraînent d'autres propriétés. Donc c'est ça, en ce sens-là, qu'elle est à la naissance de l'algèbre moderne, mais aussi d'une façon de faire cette algèbre moderne.
Anna-Lisa Panatti, comment justement Émile Noether fait partie de cette transition de l'algèbre ancienne vers l'algèbre moderne?
Oui, ça, alors ce que je pense qu'il vaut bien, ce que je voudrais bien expliquer, c'est que c'est un processus collective, disons, en transition dans la façon de penser mathématique. Peut-être certains, ils mettent le point de départ de cette transition dans l'œuvre de Évariste Galois. Parce qu'avant, l'algèbre, c'était trouver des solutions pour des équations comme x carré plus x plus moins 1 égale 0, ou comme on disait Sylvie, trouver des racines de polynômes. Et là, c'est Évariste Galois qui fait les liens entre trouver ces solutions et un autre objet qu'aujourd'hui on appelle le groupe de Galois. Donc, à la place de regarder une équation à la fois, on regarde certaines structures, donc des ensembles avec une somme, une opération, et donc on regarde toutes ces structures abstraites et on regarde les propriétés de ces structures. Donc, c'est un passage qu'on fait. Donc les travaux de Galois, et puis par Dedekind, puis Noether. Et puis, je dirais que c'est un processus qui finit avec l'école Bourbaki, et c'est en France.
Voilà. Sylvie Benzoni-Gavage, Émile Noether a aussi écrit un ouvrage qui s'appelle Algèbre moderne, d'ailleurs.
Alors oui, ça c'est une confusion. En fait, c'est Van der Vandaan qui a écrit un ouvrage, mais d'après les cours d'Émile Noether et Émile Artin, vraiment très imprégné du coup par ce qu'elle enseignait à Göttingen.
Roger Mansuy.
Oui, ce livre a été vraiment fondamental pour beaucoup de monde. Il a été lu, relu, réédité. Et on a fini par questionner un peu Van der Vandaan sur ses sources. Et dans les années 70, il a écrit un article où il explique ses sources. Il explique à quel point, au départ, ça devait être un projet avec Émile Artin, dont il avait aussi suivi les cours. Et il explique chapitre après chapitre comment il s'est inspiré. Et en particulier, le cours de Noether qu'il a suivi à l'hiver 1924-1925 est la source essentielle pour le deuxième volume de ce livre.
Oui, c'est ça, sauf que ça a été un véritable succès. On le voit, ce livre encore, 100 ans plus tard, il est dans les bibliothèques universitaires.
Alors, c'est un livre qui a été effectivement un très grand succès. On ne peut pas retirer tout le mérite à Van der Vandaan. Il a visiblement fait un vrai travail de présentation, ce qui n'était pas le fort du cours de départ. Là, et il n'a pas caché complètement le fait que ça venait d'Émile Noether et Émile Artin.
Sylvie Benzoni-Garel, sur justement ces travaux hein, qui concernent l'algèbre moderne, ces travaux, vous nous disiez, ils ont permis de généraliser beaucoup de choses.
Ah oui, comme disait Rogier, et puis Annalisa, vraiment a émergé l'idée de structure algébrique. Donc il y a la notion de groupe qui remonte à Galois, qui vient effectivement de la généralisation de ce qu'on sait faire on peut penser aux nombres positifs et négatifs qu'on sait ajouter, soustraire, et puis il y a le nombre zéro. Mais c'est une version très très simple des groupes, parce qu'il y a des groupes plus intéressants. Si on pense aux manipulations qu'on peut faire sur le Rubik's Cube, tout de suite c'est plus parlant en termes de mouvement. Et puis d'autres structures, et dans les travaux d'Héminetaire, il y a ces fameux idéaux qui sont liés à la notion d'anneau. C'est tout des mots, c'est assez frappant, des mots qui viennent du langage courant. Groupe, anneau, idéal, corps aussi, il y a la notion de corps en mathématiques. Et tout ça, maintenant, fait partie du bagage des sciences mathématiques et on apprend ça en licence de mathématiques.
L'anneau, en effet, en mathématiques, une des structures algébriques fondamentales de l'algèbre moderne. Il y a l'anneau noethérien, c'est un cas particulier d'anneau, Roger Monsuit.
Alors, effectivement, un anneau, c'est essentiellement un ensemble avec deux opérations, un peu comme l'addition et la multiplication, qui ont les propriétés qu'on imagine et qu'on apprend en primaire. Sauf que c'est plus forcément l'addition des entiers et l'addition et la multiplication des entiers. À l'intérieur, quand on a un anneau, comme les entiers, on peut regarder des ensembles particuliers. L'exemple prototypique, c'est on se prend un entier et on regarde ses multiples. Les multiples de 20, c'est un ensemble, c'est un idéal. Et on peut trouver, si on a 20, on peut regarder qu'est-ce qui divise 20, 10. L'ensemble des multiples de 10, c'est un idéal plus grand. Et Héminetaire va regarder une propriété, c'est est-ce qu'on peut avoir des idéaux qui s'enchaînent, qui s'emboîtent les uns dans les autres, et s'assurer qu'à chaque fois qu'on fasse une chaîne comme ça, ça s'arrête. Alors c'est un peu compliqué, c'est un peu abstrait, mais c'est lié au départ à l'idée de divisibilité qu'on a sur les entiers, sauf qu'elle le prend évidemment, comme toujours, dans un cadre plus général. Quand on a cette propriété-là, on a quelque chose qui est noethérien. Et c'est la propriété qui va porter son nom, qui est la plus célèbre dans les cours de mathématiques à son égard.
Est-ce qu'il y a une anecdote assez amusante aussi, c'est quand Héminetaire arrive avec sa notion d'anneau noethérien, ça remplace une autre notion à l'époque.
Les anneaux laskériens. Alors c'est assez amusant parce que Emmanuel Lasker, c'est un mathématicien beaucoup moins célèbre que Héminetaire en tant que mathématicien, mais très célèbre parce qu'il a été champion du monde d'échecs et qu'il a gardé la couronne pendant, je crois, 27 ans d'échecs. Et en 1921, le pauvre Emmanuel Lasker perd son titre de champion du monde. Et sa notion d'anneau laskérien est remplacée par celle qui est beaucoup plus profonde, beaucoup plus riche, d'anneau noethérien. La même année, il perd à la fois son mérite aux échecs, son mérite en mathématiques. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, en fait, aussi bien dans la compétition des échecs, de se faire battre un jour, que dans les mathématiques, que de voir les notions qui s'agrandissent, qui fleurissent de plus en plus.
Ouais, j'aime beaucoup cette anecdote. Anna-Lisa Panetti, vous nous avez dit, pour préparer cette émission, en pré-interview, comme on dit, vous m'avez dit qu'elle voyait les choses d'une manière très élégante en mathématiques. Elle avait une manière de faire des maths qui est très élégante. Qu'est-ce que c'est justement cette élégance des mathématiques chez Héminetaire?
Alors, ça, c'est un concept un peu particulier à expliquer, mais je pense que c'est dans ces passages dans lesquels on introduit la notion de structure. Donc, on cherche vraiment de comprendre quelle est la structure qu'il y a derrière un certain objet mathématique et comment elles sont liées entre elles. C'est une façon de comprendre que, je dirais, en mathématiques, on appelle une façon élégante. Donc, alors que tout à l'heure, on parlait de sa thèse, qui était un tas de calculs, un après l'autre. Parfois, dans ma communauté, on dit c'est une preuve par force brute. Donc, on fait beaucoup de calculs. Alors, on remplace ces calculs, beaucoup de calculs, que parfois, il faut faire, parce qu'on ne peut pas éviter, par le fait de réussir à lier deux concepts différents, voir qu'il y a deux structures, on identifie deux structures qui après ont une relation, donc ça c'est considéré une façon très élégante et très claire de faire les choses. Je pense un exemple, c'était le théorème de Noether en physique qu'on regardait tout à l'heure.
Sylvie Benzoni-Gavache, vous partagez ce regard sur...
Oui, tout à fait. Je disais au début, elle est vraiment extraordinaire par plein d'aspects. Et cet aspect effectivement, sa méthode originale, sa façon de pratiquer les mathématiques.
Alors, quelle est la suite de sa vie? Quelle est sa postérité? Et sa notoriété est-elle donc à la mesure de ses apports en mathématiques? Restez avec nous.
Culture. La science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Sylvie Benzoni-Gavage, Annalisa Panatti et Roger Mansuy, nous continuons de vous raconter la vie et les travaux de la mathématicienne Amy Noether, considérée donc comme l'une des mères de l'algèbre moderne. On a parlé donc de ses travaux scientifiques. Elle est connue en mathématiques, en physique mathématique. En physique, elle est surtout connue pour son travail sur les invariants et en particulier son travail sur la relativité générale. On a évoqué en début d'émission son parcours, sa biographie. Annalisa Panatti, on arrive en 1928, elle séjourne à Moscou, où elle travaille donc avec Pavel Alexandrov.
Oui, elle est invitée par Pavel Alexandrov, qui avait visité Göttingen quelques années avant. Donc, ils ont une entente scientifique très bonne. Donc, elle est invitée en Russie où elle passe une année. On dit que les amphithéâtres étaient pleins parce qu'elle était précédée par sa nommée.
Ça dit aussi ces voyages comme ça montre que elle est invitée comme mathématicienne. Oui. Ça veut dire aussi que on voit une reconnaissance qui grimpe au fur et à mesure. Sylvie Benzoni-Gavage.
Oui, on dit que c'est l'apogée de sa carrière à ce moment-là, effectivement. Et après, c'est vrai qu'elle avait... je ne sais pas d'ailleurs en quelle langue elle s'exprimait à Moscou, puisqu'elle avait un diplôme de français, un diplôme d'anglais, mais apparemment, pas grand monde l'avait entendu parler français-anglais. Et elle avait... elle était plus attirée par l'Union soviétique que les États-Unis, où elle a fini par émigrer, comme on le dira peut-être après.
Ouais. Oui, parce que ce voyage, en effet, ça lui attire de nombreux ennuis à son retour en Allemagne. On lui reproche une sympathie pour la révolution soviétique. Et puis, elle va devoir, en effet, fuir aux États-Unis. Roger Mansuy, il faut noter... Donc là, on a catégorisé deux grandes parties dans ses travaux. Il y a une troisième partie qui concerne les systèmes hyper complexes.
Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'appelle plus comme ça aujourd'hui. On parle plutôt d'algèbre, encore une structure, cette fois-ci, d'algèbre. C'est un cheminement assez progressif. Elle ne se dit pas un jour, je vais changer de sujet de recherche. Elle va aller vers quelque chose qui est non commutatif. C'est-à-dire qu'on va arrêter de regarder des opérations où A fois B, c'est B fois A, techniquement. Et c'est la dernière partie de sa carrière, la plus courte aussi, parce qu'on avance vers une fin tragique. Mais c'est aussi celle où elle commence à être très célèbre. Par exemple, elle est invitée au Congrès international des mathématiciens de Zurich en 1932. C'est la première fois qu'une femme a l'occasion de s'exprimer en conférence plénière. D'autres femmes, il y a toujours eu des femmes aux congrès internationaux depuis le départ. Il y a eu des femmes invitées à parler dans des zones spécialisées. Mais la première fois où elle a une conférence plénière, elle reçoit un prix international avec un de ses collègues. Donc c'est le moment du sommet de sa célébrité qui est aussi le moment où elle bascule vers un autre champ qui va se développer malheureusement sans elle puisqu'elle va disparaître avant d'avoir fait toutes les avancées qu'on aurait pu attendre d'elle.
Oui, ce congrès, c'est là où désormais on distribue les médailles Fields.
C'est là où on distribue les médailles Fields. Alors en 1932, on n'en distribue pas encore. C'est 1936 la première fois où on en aura, et malheureusement, Amy Noether sera morte. Un petit point de détail, je disais tout à l'heure, c'était la première femme à être conférencière plénière en 1932. Pour montrer un peu le sexisme et le manque de parité dans notre communauté, la suivante sera Karen Uhlenbeck en 1990, 58 ans plus tard. Donc c'est à la fois quelque chose où on montre qu'elle est vraiment importante, qu'elle est vraiment reconnue par la communauté, mais elle est aussi complètement exceptionnelle par rapport au traitement des autres femmes mathématiciennes de l'époque.
Alors, en 1933, le 25 avril, les nazis ont promulgué une loi qui interdit aux juifs d'enseigner. Elle est licenciée avec 194 autres professeurs d'université. Ironiquement, c'est l'unique fois où Amy Noether sera traitée d'égal à égal avec ses collègues masculins. Et donc, elle fuit aux États-Unis assez rapidement. 1935, on lui diagnostique une tumeur. Elle est opérée. On pense que ça va mieux, mais non. Elle décède quelques jours plus tard, le 14 avril 1935. Albert Einstein écrit une lettre, la voici. De la vie des mathématiciens vivants les plus compétents, Mademoiselle Noether était le génie mathématique créatif le plus important qui ait existé depuis le début de l'enseignement supérieur pour les femmes. Dans le domaine de l'algèbre, dans lequel les mathématiciens les plus talentueux ont travaillé pendant des siècles, elle a découvert des méthodes qui se sont révélées d'une importance énorme pour le développement de la génération actuelle actuelle de jeunes mathématiciens. Les mathématiques pures sont à leur manière la poésie des idées logiques. Née dans une famille juive qui se distinguait par son amour de l'apprentissage, Emine Otter, qui, malgré les efforts du grand mathématicien Hilbert de Göttingen, n'a jamais atteint le niveau académique qu'elle méritait dans son propre pays. Elle s'est néanmoins entourée d'un groupe d'étudiants et de chercheurs à Göttingen qui sont devenus d'éminents enseignants et chercheurs. Son travail désintéressé et utile pendant de nombreuses années a été récompensé par les nouveaux dirigeants de l'Allemagne par un licenciement, ce qui lui a coûté ses revenus pour maintenir son style de vie simple et la possibilité de poursuivre ses études de mathématiques. Ses amis scientifiques visionnaires dans ce pays, les États-Unis, ont eu la chance de pouvoir faire les démarches nécessaires auprès du Brian Moore College et de l'Université de Princeton pour qu'elle trouve aux États-Unis, jusqu'au jour de sa mort, non seulement des collègues qui appréciaient son amitié, mais aussi des élèves reconnaissants, dont l'enthousiasme a fait de ces dernières années les plus heureuses et peut-être les plus fructueuses de toute sa carrière. Voilà la lettre d'Albert Einstein qui décrit le 1er mai 1935 et qui est publiée dans le New York Times. Roger Monsuit, une réaction à l'écoute de cette lettre ?
Alors c'est très bien que Einstein fasse l'effort de reconnaître le mérite d'Emine Otter. On n'oublie pas en même temps que quand elle émigre aux États-Unis, Einstein, comme d'autres, réussissent à avoir des postes dans des universités très prestigieuses comme Princeton, alors que Emine Otter devra se rabattre vers une université qui est prestigieuse, qui est intéressante, mais qui est une université féminine, le Bryn Mawr College. Donc certes, tout le monde dit qu'elle est merveilleuse, qu'elle est fantastique, mais peu lui ont tendu la main suffisamment quand elle avait besoin d'un poste aux États-Unis.
Et puis on la considère comme un génie qu'à travers les affirmations d'un autre scientifique, ce qui est quand même aussi un peu questionnable, Annalisa Panatti.
Oui, donc il faut quand même dire que c'est Einstein qui a insisté pour qu'il y ait un article sur la New York Times, parce que il a dit que c'est un scandale, qu'ils ont mis juste la date de sa mort, et il prend quand même l'initiative d'écrire quelque chose sur elle. Après, je trouve que c'est beau la description de sa personnalité, mais peut-être c'est pas clair de cette lettre qu'elle était leader d'une école. On dit souvent la femme mathématicien la plus importante depuis que les femmes ont accès aux études, mais je pense que c'est pas assez, c'est vraiment les leaders d'une école de mathématiques.
Sylvie Benzoni-Gavage, au musée justement, à l'Institut Henri Poincaré à Paris, on a des portraits de mathématiciens, de mathématiciennes, on a aussi celui des Emine Otter.
Oui, tout à fait. Donc, on a mis quatre grands portraits de personnalités du XXe siècle que la plupart des gens reconnaissent, sauf elle, en fait, effectivement. Alors que c'est quand même une mathématicienne dont on retrouve le nom dans plein de théorèmes et aussi un adjectif, ça c'est quand même très très chic.
Écoutez, merci de nous avoir accompagnés tous les trois tout au long de cette heure. Dans quelques secondes, on écoute Alexandra Delbaume, mais mille merci Sylvie Benzoni-Gavage, merci Annalisa Panatti, merci Roger Monsuit. Tout de suite, on quitte les mathématiques et on tend l'oreille à la bioacoustique, c'est la chronique avec science.
Que nous disent les sons de la nature ? C'est la grande question auquel tente de répondre le suivi acoustique passif. Un terme complexe, mais une méthode simple. Il s'agit d'écouter le vivant, autant sur Terre que dans l'océan. Voici quelques exemples. En Australie d'abord, dans l'estuaire du Perth. Des grognements de gros poissons nommés le mulloway, captés par la chercheuse Sarah Marley. Ensuite, le Japon sur l'île de Sesoko. Des cliquetis de crevettes et le bruit des vagues, captés par Tsuaolin. Et pour finir, la forêt tropicale de Harapan. Nous sommes en Indonésie avec cette fois le grésillement d'insectes et les pépiments d'oiseaux captés par un troisième chercheur, Kevin Darras. Ce suivi est dit passif parce qu'on ne fait rien. On ne cherche pas à provoquer en retour une réaction sonore des animaux. On ne s'en sert pas non plus pour cartographier la topographie des fonds marins, par exemple. Non, on tend seulement l'oreille et ces suivis acoustiques se sont beaucoup développés ces 10 dernières années. Kevin Darras est chargé de recherche INRAE dans l'unité des écosystèmes forestiers de Nogent-sur-Vernisson.
Il faut savoir que ça fait longtemps qu'on enregistre les sons que produisent les animaux, mais la technologie qui nous permet de faire ça à grande échelle et à bas coût avec une qualité acceptable est relativement récente. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de suivi acoustique passif ces dernières années. Quand le microphone est plongé dans l'eau, c'est juste que ça s'appelle un hydrophone. Et quand on fait une prise de son en milieu terrestre, dans l'air, ça s'appelle un microphone. Mais le principe est exactement le même. Ce sont des microphones à la base. Donc, on a bien une méthode de prise de son qui est unifiée à la base. C'est plutôt la synthèse de ces données-là, de qui fait quoi, où, est-ce qu'on a enregistré les sons, quand on a enregistré les sons, avec quels paramètres, quels étaient les organismes ciblés. C'est plutôt cette synthèse-là qui nous a manqué. Et c'était ça l'objectif, de rassembler toutes ces données dans une base de données pour permettre d'avoir un aperçu de ce champ méthodologique vaste qu'est le suivi acoustique passif.
Et c'est l'enjeu du réseau collectif World Wild Soundscapes. Environ 300 scientifiques se sont mis d'accord pour partager ces données acoustiques passives et surtout renseigner les métadonnées correspondantes, c'est-à-dire toutes les informations qui décrivent la prise de son, où, quand et comment cela a été enregistré. C'est une gigantesque base de données des sons de notre planète réalisée sur plus de 12 000 sites à travers le monde. Et ces métadonnées nous disent trois choses. Une synthèse des connaissances parues dans Global Ecology and Biogeography, et dont ce chercheur est le premier auteur, arrive à la conclusion que cette écoute passive du vivant couvre mieux la Terre que l'océan. Ce n'est pas tout à fait étonnant, les micros sont plus simples à poser. En revanche, les écoutes sous-marines sont plus longues, et donc elles sont plus exhaustives sur le cycle jour-nuit et les saisons, c'est le second résultat. Le troisième est un constat et une corrélation, il y a moins de sons du vivant quand il y a plus de bruit humain.
On a essayé de démontrer quel est le potentiel de la base de données. Et donc, on a extrait des enregistrements d'une douzaine d'écosystèmes divers et variés. Et on s'est posé la question, est-ce que l'activité humaine, par exemple, les véhicules qui passent, les avions qu'on entend très souvent en arrière-plan, ou bien même les sons de construction, est-ce que ces activités humaines-là, mesurées par les sons, est-ce qu'elle est corrélée à l'activité biologique naturelle, si je puis dire, des animaux. On a pu déceler cette corrélation négative entre la biophonie, donc les sons d'origine naturelle mais non humaine, et les sons d'origine humaine, ce qu'on appelle l'anthropophonie par opposition. Et c'est intéressant parce que ce genre de corrélation négative, souvent on la suppose, rarement on est en mesure de la démontrer vraiment à très grande échelle et surtout à travers plusieurs groupes animaux, là où précédemment des synthèses appuyaient plutôt sur les dires d'experts et devaient gérer des biais entre méthodes pour arriver à avoir un aperçu de la distribution de la biodiversité globale.
Finalement, c'est une corrélation attendue et supposée, mais jamais démontrée encore. C'est la force de ce regroupement de données. Reste bien sûr à comprendre le lien de causalité entre ces mondes sonores. Cet inventaire de la biophonie est un travail de fond et un tremplin vers d'autres études. L'objectif à présent est de perfectionner ce catalogue, de rendre l'annuaire plus représentatif dans sa couverture spatiale et temporelle, ce qui revient à installer des enregistreurs acoustiques là où il en faut, ne pas en ajouter là où on a suffisamment de données pour parfaire ce réseau de surveillance de la biodiversité et suivre son déclin actuel et à venir. L'autre enjeu est politique, le contexte international étendu. Entre conflits armés et attaques répétées sur le financement des sciences, de tels projets sont touchés de plein fouet. Et pour comprendre finement l'état de notre biodiversité, il faut que cette collaboration reste internationale.
Merci Alexandra pour votre chronique, merci à vous pour votre écoute, merci à toute l'équipe. C'était ce qu'il fallait. C'était ce qui fallait démontrer à ce jour.